pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que nous vivons en 1988 un événement. Il y a 50 ans, que s'est posé à la conscience d'un certain nombre de protestants, d'églises de l'époque, un problème important. Est-ce qu'il était possible d'entrer dans un mouvement de restauration du protestantisme français dans son unité? Certains ont pensé qu'il fallait aller dans cette direction, d'autres, non pas qu'ils fussent contre l'unité, mais d'autres ont pensé qu'il y avait une sorte de non possumus, une raison de conscience qui faisait qu'on ne pouvait pas aller au-delà. Alors nous sommes donc réunis pour marquer ce temps, ce cinquantenaire, et la commission permanente de notre union d'église n'a pas voulu faire des cérémonies, des manifestations un peu spectaculaires, mais a voulu malgré tout attirer l'attention des protestants sur une question qui s'est posée à ce moment-là et qui, nous le croyons, demeure toujours d'une grande actualité. Et la question se pose de la manière suivante. Que voulons-nous dire lorsque nous affirmons, lorsque nous déclarons que la Bible est la parole de Dieu? C'est la question. Cela semble une évidence. Au premier abord, nous sommes prêts à dire oui, la Bible, l'Écriture sainte est la parole de Dieu. Mais en fait, les choses se compliquent un petit peu. Qu'est-ce que nous voulons dire lorsque nous déclarons, lorsque nous affirmons que la Bible, la Sainte Écriture, est la parole de Dieu? Et on peut observer qu'il y a différentes manières de comprendre cette affirmation. Je voudrais, en guise d'introduction, présenter simplement et brièvement deux manières de comprendre cela. Lors du dernier concile de l'Église romaine, dans une constitution dogmatique Dei Verbum, il a été présenté que la Bible est la parole de Dieu, mais dans un processus qui est celui de la tradition. Si vous voulez, la Bible n'est qu'un maillon dans une chaîne, la chaîne de la tradition. Si bien qu'à certains moments, on peut constater que cette tradition prend le pas sur ce que annonce et proclame l'Écriture sainte. Alors vous le voyez à travers ce premier exemple, ce n'est pas aussi évident que cela. Dire tout simplement l'Écriture est la parole de Dieu et nous sommes tous d'accord là-dessus appelle quelques réflexions de notre part. Alors c'est un effort, il faut faire effort. Il ne faut pas dire comme cela, ça va, on l'a tous bien compris. Il faut vraiment que nous réfléchissions. Et je vous remercie d'être venu ce soir pour écouter une conférence sur ce sujet, de façon que nous puissions essayer d'y voir clair, de peut-être mieux comprendre ce que nous voulons dire lorsque nous déclarons l'Écriture et la parole de Dieu. Et il y a précisément 50 ans, certains ont pensé qu'il était important d'affirmer l'autorité souveraine des Saintes Écritures dans la ligne des réformateurs, de cette Église historique réformée à laquelle nous sommes très attachés, et dans la ligne de l'Église de tous les temps, de tous les siècles. Voilà donc pourquoi nous avons choisi ce sujet un peu ardu. Je reconnais que ce n'est pas tellement attrayant de proposer une conférence sur le statut de l'Écriture. Ça, alors, il faut vraiment avoir l'audace qui a été la nôtre pour proposer cela à des personnes. Mais nous avons osé et vous avez répondu à notre invitation. Nous vous en remercions. Voilà pourquoi ce sujet qui demeure toujours fondamental pour, je ne dirais pas les églises de la Réforme, mais pour l'Église de Jésus-Christ. À quoi se réfère-t-elle? Quel est son fondement? à quoi se soumet-elle. Et je dirais maintenant, en deuxième lieu, dans cette introduction, après vous avoir dit pourquoi on a choisi ce sujet, pourquoi nous avons choisi un tel conférencier. Michel Yonner, je le connais assez peu. Je sais qu'il est candidat pasteur dans notre Union nationale des églises réformées évangéliques. Il est candidat pasteur, il est en ce moment en stage à Montpellier, il sera bientôt à Marseille, on s'apprête à l'accueillir avec joie, avec reconnaissance. Mais pourquoi Michel Yonner, un tout jeune, pourquoi un candidat pasteur? Nous aurions pu, bien sûr, faire appel à d'autres personnalités, des théologiens, tout à fait capables de traiter ce sujet. Nous aurions pu demander à tel professeur de telle faculté de venir nous parler sur ce thème. Nous aurions pu demander aussi à des pasteurs déjà anciens dans le ministère de nous faire part de leur expérience et de leur réflexion. Alors pourquoi un tout jeune candidat qui, nous l'espérons, dans quelques mois, pourra entrer dans notre corps pastoral. Pourquoi cela? Eh bien, il y a une raison. Il y a une raison. C'est la même qui a fait que nous avons choisi Daniel Bergès pour la conférence de dimanche après-midi. Voilà pourquoi Michel Yonner. Pourquoi un tel sujet? Pourquoi un jeune théologien, un futur pasteur? Pour que nous soyons encouragés les uns et les autres. Et nous qui sommes maintenant un petit peu parmi les plus anciens dans l'Union nationale, pour que nous soyons encouragés. Ce qui a été entrepris dans le passé n'est pas achevé. Et nous sommes au contraire remplis d'une grande espérance. Nous sommes débordants d'une infinie reconnaissance, parce que si d'autres peuvent envisager que bientôt il faudra laisser le flambeau aux autres, eh bien, les autres, ils sont là. Ils s'appellent Michel Yonner, Daniel Bergès, d'autres encore. Ils sont là pour prendre ce flambeau et pour que, à leur tour, ils le transmettent aux générations futures. Et cela, tant que nous serons ici-bas sur cette terre, avant que le Seigneur revienne dans sa gloire. Alors merci d'être venu. Le sujet n'est pas facile. Le sujet n'est pas, j'allais dire, tellement amusant. On aurait pu vous proposer des danses folkloriques, mais ça c'est autre chose. Un sujet difficile. Pourquoi nous l'avons choisi? Pourquoi ce conférencier? Pour que nous repartions d'ici, de cette salle, avec une grande joie dans le cœur. L'Église, voyez-vous, c'est une affaire qui continue. Elle a eu une histoire, elle a un présent. Elle est ouverte sur le futur. Merci à Michel Yonner d'avoir accepté cette responsabilité.
Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, il y a dans la théologie contemporaine un mot qui est très à la mode, c'est le mot herméneutique. La science de l'interprétation de la Bible. De quelle manière est-ce que les textes bibliques, qui datent pour les uns de plusieurs millénaires, comment est-ce que ces textes peuvent-ils parler à l'homme moderne avec la culture et les problèmes qui lui sont propres? Et il est sans doute peu de sujets aujourd'hui sur lesquels on ne publie davantage, sur lesquels on ne discute davantage. Mais il y a aussi, à toute discussion herméneutique, un préambule. C'est la question de savoir quel est le statut, quelle est la nature du texte dont on veut discuter l'interprétation. En effet, il y a toujours un lien étroit entre, d'une part, la vision que l'on a de la Bible et, d'autre part, la méthode que l'on utilise pour son interprétation. On ne peut pas s'interroger valablement sur la manière pratique de comprendre la Bible sans être au clair sur la nature de son autorité. Si vous voulez parvenir à capter une émission de radio correctement, eh bien, la première chose à faire, c'est de régler votre poste récepteur sur la bonne longueur d'onde. La longueur d'onde sur laquelle l'émission a été diffusée. Mais curieusement, cette question du statut de l'Écriture, ce que l'on appelait autrefois la doctrine de la Bible, cette question est aujourd'hui le plus souvent passée sous silence. Bien qu'elle soit pour toute réflexion herméneutique un préambule incontournable, cette question, curieusement, est absente du débat. Elle est le plus souvent passée sous silence. D'où l'importance du sujet dont il m'a été demandé de vous parler ce soir, le statut de l'Écriture, statut que nos pères, que nos prédécesseurs dans la foi ont exprimé en confessant que l'Écriture sainte est la parole de Dieu. En effet, si nous ouvrons la confession de foi des Églises réformées de France, par exemple, la confession de foi de La Rochelle de 1559, nous lisons ceci. Nous croyons que la parole qui est contenue dans les livres de la Bible a Dieu pour origine et qu'elle détient son autorité de Dieu seul et non des hommes. Cette parole est la règle de toute vérité. Il en découle que toutes choses doivent être examinées, réglées et réformées d'après elle. Article 5. Et de même, si nous ouvrons la confession de foi de Westminster, dont la revue réformée vient de nous offrir une magnifique traduction en français, eh bien nous lirons « L'Écriture sainte, ou parole de Dieu, comprend tous les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ces livres ont tous été inspirés par Dieu pour être la règle de la foi et de la vie. L'autorité de l'Écriture sainte, qui doit être crue et qui doit être obéie, dépend non pas du témoignage d'un homme ou d'une église, mais entièrement de Dieu, son auteur. Elle doit donc être reçue parce qu'elle est la parole de Dieu. » Alors vous aurez relevé dans ces deux textes un certain nombre de choses. Il y a tout d'abord une identification qui est faite entre, d'une part, la parole de Dieu et, d'autre part, le texte de la Bible, puisqu'ici, Écriture sainte et paroles de Dieu sont synonymes. Deuxièmement, l'Écriture ne doit pas son autorité à une instance humaine, quelle qu'elle soit, mais à Dieu seul. Et enfin, cette Écriture sainte, puisqu'elle est parole de Dieu, joue le rôle de canon, c'est-à-dire de règle. Elle est la règle de toute vérité, la norme par laquelle toutes choses en matière de foi et de vie doivent être mesurées, doivent être façonnées et réformées. Parler de la canonicité de la Bible, c'est précisément parler de cette qualité normative, de son droit à nous régir et à nous gouverner. L'autorité de la Bible doit être cru et doit être obéi. Tel fut dans le credo de l'Église, et ceci jusqu'au début du XXe siècle, la doctrine de la Bible, le statut de l'Écriture. Mais il va sans dire qu'aujourd'hui, les choses ont bien changé. Depuis le début du siècle, la théologie réformée sur ce point s'est progressivement distanciée et même a rompu avec cet héritage. Et lorsque la doctrine de la Bible n'est pas tout bonnement rayée du credo, elle est en tout cas ouvertement contredite. Un chrétien qui croit au Dieu vivant, nous dira-t-on, celui-là ne saurait vivre dans un attachement crispé à la lettre de la Bible, dans la crainte de voir s'effondrer les bases de sa foi. Il doit s'affranchir d'un fondamentalisme primaire qui n'honore ni la Bible, ni même le Dieu qu'il prétend servir. Il doit bien sûr savoir distinguer la forme de la Bible de son contenu. Et que devient alors, dans cette nouvelle perspective, le statut de l'Écriture? Les réponses sont aussi diverses qu'imprécises. Le texte de la Bible serait un témoignage plus ou moins direct rendu à la parole de Dieu. Il serait un reflet de cette parole, ou encore un texte édifiant par les nombreux exemples de foi qu'il rapporte. Certes, le texte de la Bible reste un texte privilégié, mais il n'a pas une nature, un statut qui le distingue d'autres écrits. Il n'y a rien en lui qui exige qu'il soit examiné avec une attitude particulière ou avec des méthodes spécifiques. Et désigner la Bible comme la parole de Dieu, soit, mais ce n'est en réalité qu'une métaphore pour souligner sa grande qualité religieuse. Et parmi les arguments qui sont souvent allégués en faveur de cette nouvelle attitude envers la Bible, il vient toujours en premier lieu la notion du Dieu tout autre. C'est-à-dire l'idée que la différence entre Dieu et l'homme est si radicale, si absolue, si essentielle, qu'il est parfaitement impossible que la parole de Dieu puisse être contenue, être enfermée dans un langage humain, dans un texte humain, quel qu'il soit. Ainsi dira-t-on, un Dieu dont la parole pourrait être contenue dans le texte de la Bible, ce Dieu-là n'est plus Dieu. Mais il est la projection que l'homme fait de ses propres idées religieuses. D'où le second argument qui revient constamment à la bouche des théologiens contemporains, le refus de l'idolâtrie. Identifier le texte biblique et la parole de Dieu, c'est se rendre coupable, dira-t-on, d'idolâtrie, de biblolâtrie. C'est faire un vulgaire anthropomorphisme, c'est-à-dire se représenter Dieu à l'image de l'homme, à notre propre image. C'est vénérer le texte de la Bible plus que son auteur. Et c'est là où il y a dans leur discours quelque chose de très subtil et de très séduisant, dont il n'est pas facile à prime abord de discerner le sophisme. Le discours conserve une apparence très évangélique. Par le fait que les théologiens modernes se pose en défenseur de la souveraineté de Dieu, de sa transcendance, de sa liberté absolue, et dénonce les rétrécissements blasphématoires d'un littéralisme qui pense pouvoir mettre Dieu en boîte et le rétrécir, le ramener aux dimensions de notre langage. Qu'y a-t-il à répondre à cela? Y a-t-il quelque chose à répondre à cela? Eh bien, il y a une simple question à poser. une question cardinale dont dépendent tous les autres aspects du débat. En admettant qu'il faille faire une distinction entre le texte de la Bible et la parole de Dieu, la question est la suivante. Qui va nous dire là est la parole de Dieu, là est la pensée des écrivains bibliques? Ceci est le contenu de la parole de Dieu, cela est la forme qui lui a été donnée par Paul, Jacques ou Jean. Car dans la Bible elle-même, nous ne trouvons pas de critères qui nous permettraient de distinguer l'un de l'autre. La Bible ne nous indique pas de canon dans le canon. Elle ne nous fournit pas de clé qui nous permettrait de distinguer la parole divine de la parole humaine. D'ailleurs, comment le pourrait-elle? Eh bien, il va être apporté à cette question des réponses qui sont pour le moins singulières et inattendues. Puisque, en contradiction avec tout ce qui vient d'être dit sur le Dieu tout autre, sur le refus de l'anthropomorphisme, le critère de révélation qui va être invoqué est le plus souvent un critère d'ordre rationnel ou encore d'ordre existentiel. Quel est le contenu de la révélation chrétienne ? Ce n'est plus ce qui doit être cru, mais c'est ce qui est intellectuellement acceptable, ou alors ce qui est expérimentable, ce qui est vérifiable par l'expérience religieuse. Nous avons là un renversement complet de la vapeur. Ce n'est plus l'Écriture qui va dire à l'homme ce qu'il doit croire ou ce qu'il doit faire. Mais c'est l'homme moderne qui va dire à l'Écriture, au nom de sa raison et de son expérience religieuse, ce qui en elle est, oui ou non, crédible. Et à ce propos, j'ai toujours été frappé par le titre d'un article d'André Gounel, pour ne pas le nommer, qui, me semble-t-il, exprime très bien ce renversement. À quelles conditions le christianisme est-il pensable? À quelles conditions le christianisme est-il pensable? Et le professeur Gounel, dans cette étude, de chercher à définir comment le message chrétien, je cite, peut être compris en dehors de la foi. Ce qui implique, ajoute-t-il, que son intelligibilité ne soit pas lié à une illumination particulière, sans quoi tout projet apologétique serait vain. Donc ici, qu'est-ce qui rend la révélation chrétienne crédible? Eh bien, c'est son intelligibilité. Il faut reconnaître que, en matière d'anthropomorphisme, on ne peut pas faire mieux. On est ici à l'opposé de la position des réformateurs, selon laquelle la raison humaine a atteint un tel degré de déchéance qu'elle est parfaitement incapable de connaître la vérité. Et cette rationalisation, cette intellectualisation de la foi s'accompagne aussi d'un autre phénomène. C'est l'apparition aujourd'hui d'un nouveau magistère, d'un nouveau cléricalisme, seul détenteur du sens des textes bibliques. Seuls peuvent désormais apprécier le sens véritable des textes un certain nombre de techniciens et de savants, et encore pas tous. Et le peuple de l'Église, à qui pourtant la réforme avait rendu la Bible en affirmant, à la différence du catholicisme, la suffisance et la clarté des Écritures, eh bien le peuple de l'Église ne peut plus aujourd'hui qu'aligner ses jugements sur ceux des autorités savantes auxquelles il adhère de confiance, mais qu'il ne peut plus vérifier. L'Évangile, le sens de l'Évangile, redevient la priorité, la propriété d'une élite, et ce qui décourage les fidèles d'une lecture libre et personnelle. Et de plus, cette élite savante exerce sur la théologie une sorte de dictature, parce qu'elle prétend à l'objectivité, elle prétend à l'impartialité, et elle présente ses conclusions comme des évidences indépendantes de toute opinion personnelle. Pierre Marcel parle à ce propos de l'édification d'une nouvelle Olympe qui impose au commun peuple de l'Église les résultats acquis de l'exégèse savante. Ceci dit, il ne faut pas non plus exagérer l'impact de cette rationalisation sur la foi dans l'Église, car aujourd'hui, de moins en moins de chrétiens se sentent concernés par les débats théologiques. Et le critère auquel ils recourent pour distinguer le texte biblique de la parole de Dieu est plutôt d'ordre sentimental. Il y a aussi dans la pensée populaire un relativisme de la vérité du texte biblique, mais c'est un relativisme plutôt sentimental. Le lecteur fixe lui-même les limites de son propre canon de façon un peu instinctive, intuitive. Il sélectionne dans l'écriture les textes qui lui parlent ou qui le frappent, et l'inspiration est devenu pour lui synonyme de « ce qui m'inspire ». Il y a ici un renversement entre la parole et la foi. Ce n'est plus la parole révélée de Dieu qui établit le contact entre lui et nous, mais nos propres intuitions subjectives de la vérité, notre propre conscience religieuse. Ce n'est plus la Bible qui me dit ce que je dois croire, mais c'est la foi que je lui prête qui confère au texte biblique son autorité. Et sur ce point, c'est à tort que l'on chercherait à invoquer la notion réformée de témoignage intérieur du Saint-Esprit. Car ce que les réformateurs, ce que Calvin a voulu affirmer face au catholicisme en utilisant cette expression, ce n'est pas que le témoignage du Saint-Esprit établirait en nos cœurs l'autorité de l'Écriture, mais c'est que le Saint-Esprit convainc les croyants de l'autorité de la Bible, d'une autorité qu'elle a déjà par elle-même. Dans la pensée de Calvin, l'œuvre du Saint-Esprit consiste à conduire les croyants à confesser l'autorité de la Bible, et non pas, comme on le prétend, à fonder cette autorité. Nos prédécesseurs dans la foi n'ont pas considéré l'Écriture comme une lettre morte à laquelle l'Esprit Saint aurait à insuffler une vie nouvelle qu'elle n'aurait pas par elle-même. Pour eux, la vérité de l'Écriture existe pleinement en dehors du sentiment que l'on peut en avoir. Elle est même pour eux une parole à double tranchant, puisqu'elle est efficace non seulement pour le salut des croyants, mais aussi pour le jugement des incrédules. Si nous voulons maintenant essayer de résumer le problème, de résumer quelle est la contradiction, quelle est l'inconséquence de la nouvelle herméneutique, on peut dire que c'est le fait de rompre au départ avec la doctrine de la Bible telle qu'elle a été confessée par l'Église antérieure, sous prétexte de défendre la transcendance de Dieu et de dénoncer toute forme d'anthropomorphisme ou d'idolâtrie, mais de recourir ensuite pour discerner dans le texte de la Bible ce qui est parole de Dieu de ce qui ne l'est pas, à un critère qui n'est autre en réalité qu'un anthropomorphisme, qu'il soit rationnel ou qu'il soit sentimental. Et cette parole de Dieu que l'on prétend transcendante, alors se retrouve être une réalité immanente à l'homme. C'est-à-dire que la vérité n'est plus quelque chose qui est extérieur à l'homme et qui s'impose à lui de l'extérieur, mais qu'elle lui est intérieure, que l'homme en contient en lui-même, dans sa nature, la quintessence. Il n'y a donc plus aucune confrontation entre l'homme et la parole de Dieu, mais il y a un dialogue de l'homme avec lui-même. Une sorte de conversation de ventriloque. C'est la même personne qui invente les questions et qui façonne les réponses. En voulant mettre la parole de Dieu au goût du jour, en voulant tout sacrifier aux aspirations de la conscience contemporaine, le théologien ne se retrouve plus en définitive que face à lui-même, tant finit par lui ressembler le Dieu dont il façonne l'image. Et comment ici ne pas penser à ce mot de Voltaire qui n'est malheureusement que trop vrai quand on pense à la théologie contemporaine, Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Dieu a créé l'homme à son image, mais l'homme le lui a bien rendu. Dans cette perspective, qui s'en étonnera, la Bible n'a plus rien d'objectif à dire. Elle ressemble un peu à une auberge espagnole dans laquelle chacun trouve ce qu'il apporte. On peut faire de la Bible une lecture marxiste ou une lecture freudienne, peu importe. Toutes les opinions, dès lors qu'elles se réfèrent à la Bible, ont droit de citer dans la théologie. La Bible, pour reprendre une expression du XVIe siècle, la Bible est devenue comme un nez de cire auquel chacun peut donner la forme qu'il souhaite. Mais si nous voulons maintenant retrouver une approche de la parole de Dieu qui soit plus sérieuse, qui soit plus constructive, il s'impose bien sûr de faire taire toutes ces théories, toute théorie. Et il s'impose de faire taire toute théorie sur ce que la Bible peut être ou ne peut pas être, et il convient de l'ouvrir, il convient de se mettre à l'écoute de ce que la Bible dit d'elle-même. Aucun scientifique n'a jamais fait une étude sérieuse de quoi que ce soit sans recevoir au départ cet objet tel qu'il se présente à lui. Les pyramides d'Égypte, par exemple, se présentent à nous comme des sépultures. Et ce n'est qu'en entrant dans cette perspective qu'un archéologue peut avoir l'espoir de percer peut-être les secrets de ce qu'il voit, de comprendre le sens de tout ce qu'il va rencontrer. Eh bien, il en va de même pour la Bible. L'Écriture se présente à son lecteur comme la parole même de Dieu. Telle est sa prétention. Non seulement la Bible parle, mais elle donne aussi sa carte de visite, Elle dit qui elle est. La Bible n'est pas seulement la source de la révélation, mais elle est aussi son objet. Elle parle aussi d'elle-même, en affirmant que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Alors je ne vais pas ici énumérer les nombreux textes qui forment cet auto-témoignage que la Bible se rend à elle-même. Je vous en renvoie pour cela à la petite brochure de Paul Wells qui est consacrée à ce sujet. Quand la Bible parle de la Bible, mais qu'il nous suffise ici de dire que ce témoignage, que ce soit par l'enseignement des prophètes, que ce soit par l'utilisation et par le commentaire de l'Ancien Testament par le Christ, ou encore par l'enseignement apostolique, qu'il nous suffise de dire que ce témoignage est irrécusable, qu'il est complet, qu'il est concordant, qu'il est détaillé. Et il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas en convenir. Tel est donc le point de départ. De même que les pyramides se présentent comme des sépultures, le texte de la Bible se présente à nous comme la parole même de Dieu. Et c'est pourquoi vouloir interpréter la Bible en dehors de cette perspective, comme le fait la nouvelle herméneutique, c'est travailler en dehors du champ de réflexion qu'elle propose. C'est s'intéresser fondamentalement à autre chose qu'au message biblique. C'est pourquoi recevoir l'Écriture comme la parole de Dieu, ce n'est pas l'invention du fondamentalisme. Ce n'est pas la projection sur la Bible d'idées préconçues, mais c'est tout simplement recevoir l'Écriture comme ce qu'elle prétend être. C'est le premier présupposé d'une herméneutique qui consonne avec son objet. Et à l'inverse, refuser a priori de considérer le texte de la Bible comme la parole de Dieu, ce n'est pas du tout, comme on le prétend souvent, faire preuve de neutralité ou d'un esprit scientifique, mais c'est au contraire avoir le parti pris inverse. C'est refuser a priori à la Bible la qualité qu'elle prétend avoir. Comme l'inspiration de la Bible, nous l'avons dit, est une réalité, est une doctrine révélée dans la Bible, cette inspiration est aussi une réalité qui réclame notre foi. L'inspiration de la Bible, comme nous l'avons lu dans la Confession de Westminster, demande à être crue, comme toute autre doctrine biblique. Comment est-ce que je sais que Dieu a créé le monde? Comment est-ce que je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a triomphé du mal? C'est uniquement par la foi en la parole de Dieu. Et au-delà de la compréhension rationnelle ou de l'expérience subjective que je puis en avoir, on n'a jamais pu procéder à une vérification rationnelle des vérités révélées pour la simple et bonne raison qu'il n'existe pas de norme qui soit au-dessus de Dieu et qui pourrait prouver la véracité de ce qu'il dit. Eh bien, il en va exactement de même pour le statut de l'Écriture. Comment est-ce que je puis savoir que le texte biblique est la parole de Dieu? C'est par la foi en ce qu'elle affirme. C'est en ayant confiance en ce qu'elle dit. Cela ne veut pas dire que la foi chrétienne est un sacrifice de l'intelligence, une sorte de démission de la raison, comme si la foi était un saut dans un au-delà mystique. Mais c'est dire simplement que la foi est première sur la raison. C'est la foi qui précède l'intellect et qui lui donne son cadre, et non l'inverse. La raison et servante de la foi. D'où la maxime qui a été choisie comme emblème par la faculté de théologie où j'ai étudié aux Pays-Bas, Fides quadrat intellectum, la foi qui norme l'intellect, la foi qui donne un cadre à l'intellect. Il n'est donc pas ici question d'une opposition entre la foi et la raison. Celui qui se confie en la parole de Dieu ne sacrifie pas du tout son intelligence, mais au contraire, il la renouvelle et il la sanctifie. Maintenant, si on essaye de pénétrer plus avant dans la révélation biblique elle-même, de réfléchir dans la foi à son contenu, on ne manquera pas d'être fortifié, d'être affermi dans cette conviction que l'Écriture est la parole de Dieu. En effet, si on confronte la doctrine de la révélation scripturaire à toutes les autres doctrines que la Bible révèle, on se rendra compte qu'elles sont parfaitement homogènes. Face aux autres doctrines de la Bible, celle de la révélation scripturaire n'apparaît pas comme un bloc erratique, mais elle est parfaitement cohérente avec l'ensemble de ce que la Bible dit. Tout d'abord, avec la notion de corruption complète de l'homme. En effet, dans la perspective biblique, le gouffre qui sépare l'homme pécheur de Dieu est tel que seule une révélation verbale de Dieu est capable de le combler. Dieu n'est connaissable pour l'homme corrompu que dans la mesure où Dieu lui-même franchit la totalité de la distance qui les sépare. Et j'insiste sur la totalité. C'est-à-dire que dans la mesure où Dieu se révèle à lui dans son propre langage. Et il y a dans la théologie contemporaine, sur ce point, un contresens absolu. En effet, les défenseurs de la nouvelle herméneutique, comme nous l'avons vu, évoquent cette distance infinie qui sépare Dieu et l'homme pour refuser le principe même de l'inspiration verbale. Alors que dans une perspective biblique, cette distance infranchissable est au contraire la raison d'être d'une révélation verbale. Le fait que Dieu soit tout autre ne rend pas du tout une révélation verbale impossible, mais elle la rend au contraire nécessaire. Ce n'est que parce que Dieu a condescendu à s'adapter à nous, à s'accommoder de notre langage, que nous pouvons avoir de lui une connaissance qui est vraie. Si Dieu ne s'était pas révélé à nous verbalement, il nous demeurerait parfaitement inconnaissable. Deuxièmement, ce qui appelle aussi une révélation verbale, c'est le mode du salut. C'est la manière dont Dieu a bien voulu, dans sa grâce, contracter alliance avec un peuple et le conduire jusqu'au salut, par le fait que Dieu a voulu que le point de départ de notre réconciliation avec lui soit précisément une parole, une promesse dont nous avons à recevoir par la foi l'accomplissement. D'où la parole aussi du pasteur Longeret dans son rapport, l'Écriture, contrat de l'Alliance. Troisièmement, le principe d'une inspiration verbale, scripturaire, n'est pas non plus une étrangeté. Lorsqu'on considère en troisième lieu ce que la Bible dit de façon plus globale sur le rapport entre la création et la rédemption, entre la nature, et donc le langage, et la grâce. En effet, l'œuvre de la grâce, dans une perspective biblique, ne consiste pas à bâtir un nouvel édifice à côté des ruines du premier, mais consiste au contraire à restaurer et à parfaire l'édifice ruiné. En ce sens, il y a toujours, entre la création et la rédemption, entre la nature et la grâce, entre la première naissance et la seconde naissance, entre la nouvelle création, entre l'ancienne création et la nouvelle création, entre la première terre et la nouvelle terre, une unité organique. Et cela veut dire que, par-delà sa corruption, il subsiste entre le langage des hommes et celui de la parole de Dieu une concordance réelle. La possibilité d'une communication est préservée, non pas par nous-mêmes, mais par le fait que le Dieu qui nous parle aujourd'hui est aussi celui qui a créé notre langage et même celui qui a présidé en tant que maître de l'histoire au cours de son développement. Et c'est aussi grâce à cette concordance que l'Éternel peut dire à Jérémie « Je place mes paroles dans ta bouche. » Ou que les hommes, poussés par le Saint-Esprit, ont pu parler de la part de Dieu. De Pierre en 21. C'est-à-dire que la parole biblique est toujours à la fois celle de Dieu et celle d'un homme. Elle est toujours à 100% divine et à 100% humaine. L'inspiration de la parole de Dieu n'a pas été un phénomène extérieur à l'histoire, mais elle s'est réalisée au contraire, au sein d'une culture humaine spécifique et au travers d'écrivains qui ont conservé dans cette œuvre toute leur individualité et toute leur personnalité. Nous sommes ici aux antipodes de l'idée d'une inspiration mécaniste. L'inspiration de l'Écriture est donc un acte de Dieu, un acte qui relève de sa rédemption. Et c'est pourquoi croire à l'inspiration verbale de la Bible n'implique pas non plus, comme on le dit trop souvent, un rationalisme. Car ce n'est pas en vertu d'une qualité qui leur serait intrinsèque ou permanente que les écrivains bibliques ont été inspirés, mais c'est par un don particulier de Dieu, un don unique, souverain et limité à la rédaction des Écritures. Et c'est aussi parce que l'inspiration de l'Écriture relève de la rédemption que l'accusation d'idolâtrie, voire de bibliolâtrie, qui est souvent prononcée à notre endroit, cette accusation tombe complètement à faux. À moins peut-être que l'on ne considère aussi comme de l'idolâtrie le fait de croire, par exemple, à l'incarnation du Christ, ou à sa résurrection corporelle. Telles sont quelques-unes des découvertes que fera celui qui veut aborder l'Écriture telle qu'elle se présente à lui, c'est-à-dire comme la parole même de Dieu, et qui s'efforce d'en comprendre le sens à l'intérieur du cadre de réflexion qu'elle propose. J'aimerais, en conclusion, me résumer en disant qu'il n'y a en définitive pour l'homme, face à la Bible, que deux attitudes possibles. Il peut soit se soumettre à la parole de Dieu, se laisser déranger par elle, se laisser modeler, corriger, instruire, réformer par elle, ou au contraire, il peut prendre la Bible de haut et vouloir la modeler, la corriger, la compléter jusqu'à ce que son message lui convienne, jusqu'à ce que son message soit à sa mesure. Soit la Bible est reçue afin d'illuminer nos pensées et nos expériences humaines, afin de les juger, ou ce sont, au contraire, nos propres pensées qui vont illuminer la Bible de leur savoir et de leur profonde expérience. Cette seconde attitude est naturellement la plus attrayante, la plus à la mode, qu'il est confortable de se complaire dans ses propres pensées, qu'il est tentant de vouloir mettre l'Évangile au goût du jour, de la rendre crédible et pensable pour l'homme moderne. Mais cette attitude, on l'aura compris, porte aussi en elle le germe de sa propre destruction. Car vouloir ôter de la Bible ce qui nous dérange, c'est précisément lui ôter ce qui fait d'elle la parole de Dieu. Ce qui fait d'elle une parole de libération et de salut. Cette parole qui fut folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Cette parole qui a brillé dans les ténèbres et que le monde n'a pas reçue. Cette parole qui diffère en tout du message de paix et de prospérité que les hommes d'aujourd'hui souhaiteraient entendre. Vouloir crédibiliser la Bible en la mettant au goût du jour, c'est lui ôter tout son sel. Et comment ne pas penser ici à cette parole de l'apôtre Paul qui a annoncé la venue d'un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais se donneront des maîtres au gré de leurs propres désirs, dans leur démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et ils se tourneront vers des fables. 2 Timothée 4. Par contre, nous pouvons aussi avoir l'humilité de nous incliner devant Dieu, de nous laisser bousculer par sa parole. Et c'est alors seulement qu'elle deviendra pour nous-mêmes, pour nos sentiments, pour nos pensées, une parole libératrice, une parole salvatrice. Sans cette capitulation préalable, la seigneurie de Dieu sur nos pensées reste un mot creux. Ne nous étonnons donc pas d'être dérangés par elle. Je dirais cela est dans l'ordre des choses. Cela s'accorde avec son message. Comment pourrais-je ne pas recevoir avec un certain malaise la parole qui dénonce mon propre péché, ma culpabilité? Comment ne lirais-je pas avec un certain embarras le don de la grâce, un salut totalement et parfaitement gratuit, immérité? C'est même, je dirais, le jour où la parole biblique ne nous dérangerait plus, où sa lecture nous deviendrait facile et naturelle, c'est ce jour-là qu'il faudrait commencer à s'inquiéter et commencer à se remettre en cause, à s'interroger pour savoir si l'on comprend encore ce que l'on lit. Certains taxeront peut-être notre approche de la Bible de simpliste ou de naïve. mais ce n'est en tout cas pas la naïveté naturelle de ceux que démange l'envie d'entendre des choses agréables. Et humblement, j'ose espérer que la naïveté de notre herméneutique soit tout simplement un autre nom de la simplicité de la foi, de la crainte du Seigneur. Merci pour votre attention.